en début de cette séance, dire quelques mots à tous, en espérant les partager avec tous et avec chacun, concernant les événements récents, les drames et les situations qui en découlent. Nous, responsables, et si possible intervenants et publics du séminaire, nous partageons tous, sémioticiens français et représentants de multiples nationalités étrangères, le profond traumatisme causé par les attentats de Paris le vendredi 13 novembre. Ces actes d'une barbarie inouïe, malheureusement trop fréquente, ont foulé aux pieds des valeurs qui sont le bien précieux de notre humanité tout entière, à commencer par la vie et la joie qui accompagnent la vie. Nous ne comptons pas le nombre de messages de solidarité, de sympathie reçus de collègues et amis de tous les continents. Nous pensons à toutes celles, à tous ceux si cruellement blessés dans leur corps, dans leur âme, et pour ceux qui restent dans la culpabilité de survivre quand tant sont morts sous les coups des terroristes. Nous pensons aux familles, aux amis des victimes confrontées à un deuil rendu quasi impossible par le meurtre simultané du sens même des actes perpétrés. L'incompréhensible engendre l'insupportable. Nous pensons dans le même mouvement à toutes les victimes, bien plus nombreuses, du Mali, d'Irak, de Syrie, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, à toutes ces vies systématiquement détruites en masse, à ces dizaines de villages yézidis, kurdes, méthodiquement anéantis, à ces centaines de réfugiés perdus en mer. Chacune de ces vies emporte avec elle une part de notre humanité et nous oblige à en redire le sens. Au-delà du partage de la souffrance et de la légitime révolte, au-delà de la terreur qu'on voudrait nous faire ressentir, il appartient aux sémioticiens, comme à tous les chercheurs, de prendre la bonne distance, de prendre le recul nécessaire pour analyser, pour chercher à comprendre le phénomène ou les phénomènes qui conduisent à de telles violences. Il leur revient de tenter de construire et de transmettre ce sens que d'aucuns cherchent à affaiblir ou à détruire, sans lequel notre monde bascule sans retour dans l'inhumain. Je vous remercie de votre attention soutenue. Aujourd'hui, nous allons entendre deux exposés qui sont tenus l'un par Semir Badir et l'autre par Yvan Darro. Donc, il faut repartir dans le silence, Semir, et commencer à penser, ou recommencer à penser.
Maria Giulia a quelque chose à annoncer.
Oui, très rapidement, vous informer que ce soir, il y aura la présentation du livre de Jacques Fontani, Forme de vie, à 19h, pas loin d'ici, dans le 5e arrondissement. Je vous fais passer l'invitation, l'annonce.
Merci. Semir Badir, donc, a la parole.
Merci, Jacques, pour ces mots que tu as écrits avec Yvan, Denis et Jean-François. Je ne vais pas réagir justement, sauf juste dire que c'est ça, c'est toujours difficile de réagir, même par la parole, devant quelque chose qui, justement, qui sollicite une réaction, mais enfin, on aurait envie de faire en sorte que cela n'ait pas eu lieu et de continuer comme avant. Mais je sais que ce n'est pas possible. Bref, c'est double bind que je trouve le plus difficile. Alors, donc le titre de ma présentation, c'est donc, je voulais vous parler de la transmission des idées. Je m'aperçois que sur ce thème, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Alors, il y a toujours, comme le temps est compté, ou bien j'interromps en plein milieu, ou bien j'essaie d'abréger. Mais si je dois abréger, il me semble que c'est le début qui mérite toujours d'être abrégé, enfin qui en souffre le moins. Donc, excusez-moi pour cette présentation très abrupte, mais je vais tout de suite entrer dans l'étude de cas que je voulais vous proposer pour illustrer, pour réfléchir avec vous sur cette transmission des idées. Et cette étude de cas, c'est celle d'un couple, le couple des concepts intensité-extensité, tel que Claude Silberberg l'a présenté en empruntant quelque chose qu'il va falloir bien sûr préciser à Yemslev. Et donc à partir de ce quelque chose yemslevien, il a élaboré et développé une pensée propre. Donc trois états de choses à considérer là-dedans. Silberberg développe le discours de sa propre pensée. Deuxièmement, il cède d'une autre pensée, en l'occurrence celle de Yemslev, mais évidemment pas que celle-là. Et troisièmement, il transmet cette autre pensée, la yemslevienne, dans ses textes, au moins en ceci qu'il affirme qu'il lui emprunte quelque chose. Alors, les deux premiers constats vont de soi. La question qui se pose aujourd'hui, c'est du troisième constat. Que transmet-il ? Qu'est-ce que Claude transmet ? Et surtout, pourquoi transmettre une idée, un concept, une pensée de quelqu'un d'autre ? Mon hypothèse, c'est que cette opération ajoute de la valeur. D'une part, en effet, c'est bien parce que Silberberg accorde la valeur à l'aide que lui apporte la pensée de Yemslev qu'il en assure la transmission. Transmission qui, d'autre part, rejaillit sur lui, car, encore une fois, on est dans l'hypothèse, la mienne, le porteur d'une bonne nouvelle est lui-même une bonne nouvelle. Telle est donc, à mon avis, les propriétés fondamentales de la transmission. Elle est axiologiquement valorisée, elle a une valeur d'usage. Et deuxièmement, elle opère la transition de signifiés, d'un ou plusieurs, à travers d'autres signifiants que ceux qui ont permis d'accorder à ces signifiés leur statut, sémiotique. Bien sûr, pour que la première de ces propriétés, c'est-à-dire le fait de la valeur, soit fonctionnelle, il faut qu'on ne puisse pas l'imputer à tout texte et à toute idée. Pour ce qui est du texte, je dirais ceci, certes, tout texte charrie du déjà dit, déjà écrit, jusqu'au thème barthésien de la langue fasciste, mais il me semble qu'on ne leur en fait pas crédit, nécessairement. Et de même, une idée n'a pas en soi de valeur, du moins, encore une fois, pas de valeur d'usage. Même l'idée du souverain bien n'est pas bonne en elle-même. En tant qu'idée, elle constitue au contraire une représentation objectivée, c'est-à-dire dévalorisée, du souverain bien dans mon esprit ou dans mon discours. La valeur vient d'un enchaînement d'intentionnalités, ou plutôt, et de fait je vais préférer le dire comme cela, d'un enchaînement textuel entre un signifié dépendant d'un texte source et des signifiants relevant d'un texte cible. Les signifiés valent d'être transmis du fait de leur transmission, et de même, le texte cible est crédité de ce qu'il transmet quelque chose. Pourquoi préférer enchaînement textuel à enchaînement d'intentionnalité ? Eh bien, d'abord, pour demeurer dans une épistémologie immanente, qui est antipsychologiste par nature. Et puis, également, pour inclure les cas d'autotransmission. Cas très spéciaux sur lesquels il ne faudrait pas fonder la transmission, mais qu'on peut tout de même prendre en compte. Je peux reprendre une idée que je chéris, Je peux même la caresser sans être parvenu jusqu'alors à la coucher sur le papier. Est-ce que je la transmets quand même? Pourquoi pas? Mais toujours, ce qui va fonder le fait de la transmission, c'est premièrement la valeur accordée à l'idée dans sa reprise, et deuxièmement, le fait que je la considère comme un signifié dès lors quand j'en reprends le nom, même si ce nom n'a pas été déposé jusqu'alors sur aucun papier. Mais encore une fois, c'est pas de cette transmission auto-affectante sur laquelle je voudrais me pencher aujourd'hui. Donc, je reviens à l'hypothèse centrale qui concerne la valorisation des idées. Cette valorisation relève d'un processus d'attribution, c'est-à-dire d'une syntaxe, et la transmission est l'une de ces syntaxes. Du point de vue textuel auquel je me suis attaché, il me semble que la syntaxe de la transmission va se manifester sous l'aspect d'une reformulation. Reformuler, c'est chercher à rendre un concept, une idée, mais aussi bien une hypothèse, un désir, une croyance, plus adéquat à ce qu'il vise. Toute reformulation n'est pas réussie, mais toujours, elle cherche à mieux dire. Elle ajoute donc de la valeur. Le fait de la valeur, là où il n'y en avait pas a priori. Lorsque je dis que la reformulation tend à une meilleure adéquation du concept à ce qu'il vise, cela n'entraîne pas nécessairement la disqualification pour moins bonne adéquation de la formulation première. L'alternative se pose plus raisonnablement entre deux gestes contemporains, à savoir entre la reformulation et la citation. Et l'hypothèse que je tente de développer devant vous est que, en citant, je ne transmets rien, parce que, en dépit de la sélection et du cadrage que j'opère sur le texte source, je l'objective sous la forme d'un fragment, à la fois bloc de discours et bloc de pensée, sans enclencher une procédure de valorisation, tandis qu'en reformulant, immanquablement, je transmets quelque chose qui n'appartient pas seulement au discours présent. Je fais appel à une autre scène, et cet appel est doublement valorisant, à la fois pour mon propre discours et pour la chose transmise. Cette double valorisation s'explique par la meilleure adéquation de la chose à ce qu'elle vise, valorisant pour mon discours qui montre son efficacité, valorisant pour la chose transmise qui se rapproche de son but. Je m'excuse d'insister un peu lourdement là-dessus, mais enfin, il faut donc que l'hypothèse soit bien comprise avant d'entrer dans l'exemple. Je peux évidemment transmettre une idée que je ne partage pas, une mauvaise idée, et même une idée néfaste. Je n'en suis pas moins valorisé de l'avoir reformulée de manière à montrer, mieux que par une citation, en quoi elle est mauvaise ou néfaste, c'est-à-dire en quoi elle se rapproche de son objectif. Ce qui est valorisant pour l'idée, de plus en plus dangereuse ou erronée, l'est aussi pour moi, qui suis capable de pointer une valeur, d'ailleurs encore une fois, une mauvaise valeur, dans cette idée, même s'il n'est pas question, pour moi, de faire entièrement mienne l'idée en question. Reformuler, non moins que citer, laisse une part, parfois une part essentielle, de l'idée, sous la dépendance d'un autre texte, une autre intentionnalité, si vous préférez, de sorte que ma responsabilité est engagée selon d'autres conditions que si j'exprime cette idée en propre. Or, dans le commentaire philosophique, comme d'ailleurs dans un très grand nombre d'essais philosophiques ou relevant des sciences humaines, et j'inclus là-dedans bien sûr le commentaire des sémioticiens, on trouve étroitement intriqués ces deux gestes de discours opératoirement opposés et néanmoins complémentaires, la citation et la reformulation. Je cite, puis je reformule ou paraphrase ou vice-versa. Je fais deux choses distinctes qui dynamisent mon discours. Comment comprendre la complémentarité contrastive de la citation et de la reformulation ? On le fait dans le commentaire philosophique et apparenté sur fond d'un troisième geste de discours, geste minimal et cependant hautement significatif à mon avis, à savoir la mention. Mention d'un signifiant assigné au concept visé, c'est-à-dire mention d'un terme, mention du nom d'auteur à qui j'attribue le concept en question, ou bien encore mention d'une référence textuelle. Encore une précision avant d'aller plus loin. La mention n'est pas nécessaire à la reformulation. Je peux transmettre une idée ou une pensée sans jamais nommer la source de cette idée ou pensée, ni utiliser les termes par lesquels elle s'est fait reconnaître antécédemment. La valorisation de la transmission n'affecte dans ce cas que ma conscience en renforçant mon identité. J'ai le sentiment de participer à une tradition de pensée, même si celle-ci est invétérée et inidentifiable pour moi à quelque origine. Quant aux transmissions, je cherche encore à regarder les cas marginaux, quant aux transmissions qui seraient inconscientes, elles ne sont des transmissions qu'à condition d'un débrayage. Le locuteur ne reformule rien, c'est son lecteur ou auditeur qui reconnaît une reformulation. C'est ce que Racier, à mon avis, a pointé avec humour quand il dit « un tel est le dernier à avoir découvert que X ou Y ». Mais, encore une fois, le cas que je veux examiner avec vous n'est pas celui-là, c'est au contraire celui qui, sur fond d'une mention, dialectise la citation et la reformulation dans le discours savant. Posons la question suivante. Comment le commentaire savant d'une idée transmise fait-il débat? Je vois, je dirais si vous en voyez d'autres, deux scénarios de base. Ou bien la lecture proposée d'un texte, d'une œuvre, d'une pensée est récusée, et il y a toutes les chances que la réfutation passe par des citations du texte original, après quoi nécessairement le réfutateur propose une nouvelle reformulation de l'idée première. Cette reformulation nouvelle pouvant se contenter d'être la négation de la reformulation réfutée, on ne saurait donc dire que, hein, et puis reprendre l'hypothèse. Ou bien, autre scénario, ce qui est réfuté n'est pas une lecture, mais le fait de valeur inhérent à la transmission. Autrement dit, ce qui est nié est que telle idée, telle pensée puisse être la reformulation d'une idée pensée exprimée dans un texte antérieur. L'argument de réfutation visera alors le signifiant terme qu'on cherche à distinguer, ainsi que la mise au jour de reformulateurs intermédiaires sur lesquels les mêmes types d'arguments peuvent être reconduits. En gros, ces deux scénarios conduisent à deux traditions critiques dans le débat d'idées. D'une part, la critique philologique, orientée vers les sources, et d'autre part, la critique génétique et généalogique, orientée vers la chaîne de causalité. Encore une fois, que ce soit dans une perspective textuelle ou psychologisante, intentionnelle. Avec ce risque, non pas fatal mais tout de même certain, que la réfutation critique freine, interrompe ou annihile la transmission. Je veux prendre... Ça fait déjà 26 minutes ? Si c'est ça, je ne prendrai
non.
pas.
Non, tu as utilisé une quinzaine de minutes.
Bon, alors je veux vite évoquer devant vous les enjeux et risques de cette situation en ce qui concerne la pensée de Saussure. Les débats autour de la pensée de Saussure cambent trois positions. La protection d'une authenticité, et la plupart des philologues et généticiens du texte défendent Saussure au nom d'une authenticité à préserver et d'une originalité. Si transmission il y a de leur part, c'est celle du livre. Les textes sont restitués tels quels et ne demandent pas à être interprétés. Face à eux se trouvent ceux qui prétendent prolonger la pensée de Saussure. Ils sont directement opposés au premier. Ils défendent l'esprit contre la lettre et se moquent de savoir fondamentalement, si le cours de linguistique générale est moins autorisé que les sources manuscrites. Enfin, il y a peut-être une position dialectique, mais à mon avis, c'est aussi celle qui épistémologiquement est improbable. Je pense en fait là encore une fois à François Rastier, qui se base sur un gage d'authenticité, mais qui sélectionne en même temps dans la pensée ce qui mérite une reformulation. Cette position est celle qui fait le plus valoir la transmission, mais avec une telle exagération qu'elle s'apparente à une posture religieuse, comme l'indique d'ailleurs le titre du dernier ouvrage de François Rastier, Saussure au futur. Il est temps d'en venir, après ces considérations générales, à l'étude de cas annoncé, la transmission de la pensée de Jemslev autour d'un concept reformulé par Claude Silberberg, ou plutôt d'un couple de concepts, l'intensité et l'extensité. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que ce n'est pas un examen critique de ces concepts que j'ai l'intention de présenter devant vous, mais une observation un peu détaillée des conditions et des enjeux de leur reformulation. L'hypothèse générale qui mène cette observation étant donc que les reformulations n'engagent pas seulement des effets discours situables à un niveau figuratif, mais plus profondément l'argumentativité des concepts en question et finalement leur structure sémantique fondamentale. Au reste, nous nous trouvons devant une étude de cas grandement simplifiée par l'intelligence que Claude Silberberg a lui-même mis dans ses enjeux et conditions, et pas seulement leur intelligence d'ailleurs, mais aussi la responsabilité de leur dégagement. Lui, Claude, qui a écrit dès l'avant-propos de l'essai sur les modalités tensives, c'est-à-dire en gros son premier livre, que, et je le cite, « la référence à Jemslev est, en l'état de choses actuelles, assez inhabituelle en raison de la scandaleuse ignorance, incompréhension, indifférence dans lesquelles est tenue l'œuvre du linguiste danois. » Scandaleuse témoigne, à mon avis, de la passion et de l'engagement. C'est donc aussi en manière d'hommage à son engagement dans la transmission de la pensée de Jemslev et à l'intelligence qu'il a mis à cette tâche que j'ai choisi de porter mon étude de cas sur le travail de Claude Silberberg. Alors, pour faire cette présentation, il y avait plusieurs postes d'observation possibles. J'ai privilégié le plus simple, celui qui consiste à évoquer ce travail selon l'ordre chronologique des publications et sans viser d'ailleurs l'exhaustivité. Étant donné que les reformulations successives conduisent, dans le cas présent, à un parcours, à une transmission non pas ponctuelle, mais jalonnée, rythmée, avec divers degrés d'intensité. Trois jalons donc dans ce parcours. Le premier consiste dans l'essai sur les modalités tensives, ouvrage qui date de 1981. Le concept de tensivité y apparaît sous cette forme terminologique-là, mais conjointement avec un autre terme, celui de phorie. Juste une toute brève citation, le concept de tensivité, qu'en tirait, ou de phorie. Plus loin dans l'ouvrage, une résolution est proposée pour ce doublet terminologique. La phorie est une substance dont la forme sémiotique serait la tensivité. Forme et substance étant eux-mêmes des concepts jemsleviens, et le concept de forme ayant chez Jemslev, d'un point de vue théorique, la prévalence, le primat sur celui de substance, l'accent mis sur la tensivité et ses dérivés, et l'atténuation progressive du terme de phorie, donnent déjà à entendre la sentence de la pensée de Jemslev sur celle de Silberberg, ascendance qui, du reste, est parfaitement reconnue et même revendiquée dès l'avant-propos, je cite encore, « trois références surplombent notre entreprise, premièrement sémiotique, de Grémas et Courtès, deuxièmement les prolégomènes à une théorie du langage de Jemslev, troisièmement les cahiers de Valéry. » Revendication patente d'une transmission d'idées, de conception, de réflexion, certes compliquée par la pluralité des références, mais de ce fait même immédiatement valorisée. D'une part, la référence au dictionnaire de Grémas et Courtès fournit la garantie nécessaire à un contrat de lecture auprès du premier cercle de communautés savantes ciblées par l'ouvrage de Claude Silberberg, à savoir la communauté des sémioticiens appartenant à l'école de Paris ou sympathisant avec cette école. D'autre part, la référence au cahier de Valéry créditant l'entreprise, ces autres références comprises, d'une valeur pour la littérature, pour, on pourrait dire, une pensée littéraire, c'est-à-dire en somme pour une tradition haute de culture sur la valeur de laquelle, je crois, peut s'accorder tout lettré occidental. S'agit-il là, dans cet entrecroisement des références, d'un heureux hasard ou bien d'un calcul rhétorique? Peu importe, Il suffit que soit effective la valorisation, que chacune des deux références côtoyant celle des prolégomènes joue à l'égard de la transmission de la pensée Tiemslev dans et par celle de Zilberberg. En l'occurrence, l'émulation suscitée par cette conjonction référentielle a été reconnue a posteriori par l'entremetteur, si j'ose dire, c'est-à-dire Claude. Mais là, je cite de mémoire, c'est-à-dire je n'ai pas retrouvé le passage, mais à un moment donné, il dit il me semble vouloir corriger Tiemslev par Valéry, ou bien était-ce Cassirer qui corrige Tiemslev, je n'en suis plus sûr, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, cette interpénétration sous la forme synthétique, donc d'une correction, de corriger, se fait par-delà des champs disciplinaires et des registres discursifs distincts, ce qui produit un supplément de valeur. Toujours dans cet essai, il est régulièrement fait mention de Tiemslev, corroborant la déclaration liminaire concernant l'inspiration et les concepts intensifs et extensifs font d'ores et déjà partie de l'hypothèse tensive, quoique aucun énoncé ne vienne expliciter la relation entre Tiemslev et ses concepts. Est-ce à dire qu'elle n'existe pas encore dans le chef de Zilberberg? Ce serait étonnant dès lors que les essais linguistiques de Tiemslev, parus 10 ans plus tôt, en 71, sont déjà cités dans l'essai, et que c'est bien à partir d'eux, notamment, que dans les textes postérieurs, Zilberberg va établir cette relation. Simplement, ce blanc d'une de cette relation entre intensif et extensif d'une part et la lecture de Tiemslev d'autre part, et sans chercher à trop le solliciter, il me semble qu'il met, on peut tirer de lui que ce constat que toutes les opportunités à transmettre ne sont pas saisies. La transmission attend son heure, pourrait-on dire, ce qui à nouveau conforte l'hypothèse de la valeur assignée à son énonciation. Par ailleurs, on peut remarquer que la référence au concept tiemslevien d'intensif et extensif, malgré la proximité terminologique et conceptuelle, n'est pas nécessaire au développement discursif de la pensée de Zilberberg. Encore une fois, rien du tout, je saute. À la fois elle attend son heure et elle n'est pas nécessaire au développement de la pensée. Alors, j'en viens donc au second jalon, qui est celui sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu. C'est celui de la lecture de Tiemslev, lecture que Zilberberg a fait en plusieurs fois, on va dire, puisqu'il a consacré au moins 4 articles à cette lecture de Tiemslev, et les titres même se donnent pour des lectures, « Connaissance de Tiemslev », Le mémoire de Saussure lu par Tiemslev, etc. Je dis 4, je pourrais dire 7 ou 8, parce que dans les articles qu'il consacre, notamment à Brundal, il est aussi régulièrement question de Tiemslev. Alors, il y a une page sur laquelle je voudrais lire avec vous. J'ai fait 15 copies, ce qui est, à mon grand regret, pas assez. Il va falloir que vous les partagiez. J'essaierai aussi de la lire pour ceux qui ne l'auraient pas. Si donc chacun de ces articles se donne explicitement pour une lecture, donc de Saussure à Tiemslev d'abord, puis de Tiemslev à Grémas, enfin plus globalement de Tiemslev au Sémiotien, c'est dire que la connaissance de Tiemslev ne se donne pas pour désintéressé. Elle engage la responsabilité du lecteur, non pas seulement selon les injonctions de la critique savante sur ce qui en est rapporté d'une pensée, mais aussi par le fait même du rapport, de la mise en rapport, ce qui sans doute va de soi, mais tout de même n'est jamais dit, c'est-à-dire jamais approfondi, ni convenablement examiné. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais déjà traité dans l'article paru dans Analytique du sensible, et je rapporte brièvement l'argument de cet article. La lecture de Jemslev faite par Zilberberg permet de situer sa propre pensée, en particulier vis-à-vis de celui qui, symboliquement, pour lui, comme pour la communauté des sémioticiens qui lit ses articles, fait figure de père. Père lacanien, si vous voulez, hein, père majuscule, à savoir Grémas, bien entendu. S'il y avait quelque ridicule à l'appeler ainsi, on pourrait dire que Jemslev est le grand-père que Zilberberg fait jouer pour se positionner face au père. Ridicule, mais enfin, c'est quand même exactement cela. Jemslev est le père du père. Et c'est cela, d'abord, que la lecture de Zilberberg cherche à établir méticuleusement. Comment Grémas revendique l'ascendance de Jemslev, et comment, cependant, Grémas n'a pas lu Jemslev, c'est-à-dire a manqué à la transmission de sa pensée. Il y avait, pour montrer cela, que Grémas n'a pas lu Jemslev, trois options argumentatives possibles, ou bien il ne l'aurait pas bien lu, c'est ce qu'aurait fait un philologue, c'est comme ça qu'il aurait procédé, ou bien il l'aurait lu, mais pas exclusivement, et d'autres sources donc ont parasité la transmission de Jemslev, par exemple celle de Prague, c'est ce qu'on a pu dire, c'est ce que Grémas lui-même a pu dire, hein, quand il dit dans un entretien qu'il a fait avec Alessandro Zina, paru dans la revue Versus, il dit à propos de l'article de Jemslev pour une sémantique structurale, « Je l'ai mal lu. Tout mon savoir vient des prolégomènes. » C'est là qu'il y a la première tentative de Jemslev de faire de la sémantique en disant que le lexème « vache » est égal à « bœuf plus féminin ». Admirez la reformulation au passage, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. « Sur ce plan, ajoute-t-il, je suis Jacobson et non pas Jemslev. » Vous voyez, c'est très clair. La troisième option, c'est de dire que Grémas n'aurait pas lu Jemslev complètement. Eh bien, c'est cette option, la moins compromettante, sans doute, que retient Zilberberg. Dans l'article de 97, lequel je ne l'ai pas cité, mais tant pis, oui, c'est ça, celui qui s'intitule « Une continuité incertaine, Saussure, Jemslev, Grémas », il évoque ainsi cinq thèmes jemsleviens qui auraient été négligés par Grémas. Or, quatre de ces thèmes, au moins, donnent à Zilberberg l'occasion de mettre au centre de sa propre lecture de Jemslev le concept d'intensité. Là encore, cette opération est parfaitement connue de Zilberberg, qui conclut en disant qu'il a, je cite, « le sentiment qu'une homogénéité certaine contraint les cinq motifs abordés, que l'intensité circule entre eux tel un fantôme, que la direction, la réaction, l'étendue, c'est-à-dire les fameux thèmes dont il est question, sont des morphologies fonctionnellement associées aux valeurs de l'aphorie. » Et il ajoute aussitôt, mettant en continuité directe la lecture transmise et le travail collectif à poursuivre, que, je cite à nouveau, une homogénéité partielle dénonce elle-même son insuffisance. La reconnaissance de l'intensité comme constance concentrique est affaire de patience, vertu, comme on sait, grémassienne. Formulation remarquable qui se boucle sur la référence au maître qu'il vient de moucher. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien, que la transmission n'équivaut pas évidemment à orthodoxie. La tradition qu'elle permet d'établir n'est pas l'énonciation, c'est-à-dire la formulation répétée d'un signifiant, mais l'actualisation, la reformulation d'un signifié. Là encore une fois, la première citation, je voudrais la lire avec vous pour vous montrer que tout ça est bien clair. Dans l'esprit de Zilberberg, on est en droit de regretter que Grémas n'ait pas insisté sur ce rapprochement, à savoir donc entre le concept jemslevien de réction et le concept sémiotique de modalité, qui procure à la linguistique une amplification valuative insigne et à la sémiotique une tradition, une inscription dans une continuité, c'est-à-dire un enrichissement. Je crois qu'on ne peut pas dire plus clairement que la transmission est au cœur des préoccupations de Claude. Alors voilà donc, si vous avez réussi à vous distribuer la feuille que je voudrais voir avec vous, je voudrais donc regarder un cas de reformulation. Donc si vous comprenez mon collage, ça commence en bas à droite avec la fin de la page 49, puis pour reprendre en haut à gauche avec la page 50, et puis donc en haut à droite, c'est le début de la page 51. C'est un article intitulé « Actualité de Brundal » qui est paru dans Langage en 1987, mais la photocopie que vous avez devant les yeux est, elle, reprise de « Raison et politique du sens » qui est apparue l'année suivante, en 88. Comme vous l'aurez compris, le commentaire sur Yemslev y apparaît en vue d'une comparaison avec les thèmes de Brundal. En l'occurrence, cette comparaison porte... Et les guillemets sont ici de Claude Silberberg sur les structures élémentaires de la signification. Par quoi le lecteur sémiotien entend aussitôt que cette comparaison est elle-même située dans les termes et le contexte d'une problématique propre au sémiotien crémassien. Et la syntaxe argumentative va suivre les gestes discursifs suivants. Transmission de concepts. Comparaison de systèmes de pensée, actualisation d'une problématique théorique, avec pour effet paradigmatique d'homologuer dans l'argumentation concept, système de pensée, dont ces concepts sont les signes, problématique théorique que ces systèmes de pensée manifestent. Bon, lisons, je saute le premier paragraphe. Pour Brundal, si nous laissons de côté les complexes positifs et négatifs, deux couples apparaissent, le couple AB et le couple AC, que l'on peut visualiser ainsi, suivent donc des graphiques, on peut les appeler comme ça, représentant d'une part le couple AB, deuxièmement le couple AC. C'est une reformulation, la reformulation est assumée puisque... Dans le paragraphe que je n'ai pas lu, qui précède, Claude précise que cette comparaison se fait en utilisant les conventions graphiques proposées par Yemslev. Et de fait, il n'est pas sûr que la critique philologique brundalienne ne pourrait y trouver à redire. On se demande pourquoi ces complexes, donc le dernier graphique, se présente comme en remplissant les cases petit a, petit c, petit b. Tout aussi bien, on pourrait considérer que le complexe soit représenté exactement comme est représenté b, c'est-à-dire en occupant les positions positives et négatives. Or, même si ce n'est pas de cela dont il est question aujourd'hui, vous allez voir que ça a des retombées, bien sûr, sur la comparaison. Je continue ma lecture. Pour Yemslev, en suivant l'exposé de la catégorie des cas, trois couples sont mis en place. Et là, encore une fois, vous apercevez les graphiques qui sont présentés. La comparaison entre les deux systèmes de pensée est basée sur ces représentations graphiques. Elles donnent à entendre une homologie structurelle entre des concepts brundaliens et des concepts yemsleviens en raison de l'identité de leur représentation graphique. Ce qui est transmis, ce n'est donc pas seulement deux systèmes de pensée, mais également la possibilité de les comparer. De fait, la comparaison ne peut pas être de la seule responsabilité du comparateur. Il faut aussi que quelque chose dans les systèmes transmis soit homologable de l'un à l'autre. Comme le rapportait Jean-François Baudron à la séance dernière, il me semble, à partir de sa lecture de Sartre, la transmission implique un élément médiateur permettant d'inscrire les particuliers dans un mouvement concentrique et totalisant, ce qui suffit à les rendre comparables. À cela s'ajoute le fait que la comparaison rencontre les termes retenus par Grémas pour la structure élémentaire de la signification, neutre, complexe, couple contraire, couple contradictoire. La totalisation historique dans laquelle sont intégrés les systèmes brundaliens et yemsleviens pointe par conséquent aussi vers un futur proche, celui d'une contribution éventuelle des résultats de cette comparaison à une théorisation en cours chez les sémioticiens. atteste de ce futur proche, la suite de l'article, que vous n'avez pas, mais où les résultats obtenus sont rapprochés de la théorie des catastrophes de René Thom, laquelle occupait alors, vous le savez, le haut de la scène sémioticienne. Si l'on regardait, mais je crois, ai-je le temps, je galope hein, pour essayer d'en dire le plus possible. Si on regarde attentivement où et comment opère la reformulation, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans la présentation du système Yamslevien, elle opère selon deux aspects. Premièrement, en dépit de la déclaration préliminaire sur des conventions graphiques proposées par Yamslev, les graphiques présentés à la page 50 s'écartent beaucoup de leur présentation dans la catégorie des cas. J'ai pas fait de PowerPoint, vous allez devoir me croire sur parole, mais bon, donc il s'oppose, il s'écarte sur deux points. D'une part, il laisse de côté la distinction, enfin le concept d'insistance, qui permet à partir duquel petit a, petit alpha et petit bêta ne pourraient pas avoir le même graphique, comme c'est le cas dans la reformulation de Zilberberg. Et deuxièmement, un autre point sur lequel on pourrait trouver à constater qu'il y a une reformulation, c'est dans une omission, à savoir celle qui concerne le couple petit gamma-grand gamma, présenté comme couple contradictoire. Cela est vrai, mais il faut comprendre que dans ce cas, petit gamma est le complexe et grand gamma est le neutre. Ce que Zilberberg omet de dire, et pour cause, puisque par la suite il va considérer qu'il y a là deux formes de neutre, et non pas donc une différence entre complexe et neutre. Mais peu importe, encore une fois, je ne suis pas dans une critique philologique ou même théorique ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que la reformulation a opéré dans le sens d'une simplification, hein, en ne mettant soit des paramètres définitoires des termes, soit des dénominations techniques de ces mêmes termes. Or, ce travail de reformulation a un grand impact sur la comparaison et l'actualisation qui en ont découlé. Pour la comparaison, la reformulation simplificatrice a grandement élevé le degré de comparabilité entre les deux penseurs. Zilberberg l'avait reconnu, mais seulement à l'endroit de Brundtland. Je passe. Les résultats de la comparaison, quant à eux, sont donnés par Zilberberg, après la discussion que vous voyez donc à la suite de la page 50. Et ont appelé ces résultats une résolution, c'est-à-dire déjà une actualisation des problèmes qu'ils soulèvent. Elle est synthétisée dans un tableau à trois colonnes, celui qui se trouve donc au début de la page 51. La première colonne désignant les termes de l'actualisation, c'est-à-dire les termes propres à Zilberberg. Les deux suivantes, certains des termes appartenant ou relevant donc des systèmes brundtlandiens et Yamslevien, tels que Zilberberg les a présentés. Pour ceux qui n'auraient pas cette feuille, donc je lis le tableau. Le contensif est au détensif, ce que pour Brundtland le positif et négatif est au complexe, et ce qui pour Yamslev est à l'intensif et à l'extensif. Or, si on se passe des simplifications opérées par Zilberberg, on obtient un tout autre tableau. Un tableau où, en réalité, il n'est plus possible d'homologuer, comme il l'a fait, le positif et négatif de Brundtland avec l'intensif de Yamslev, par exemple. En fait, et c'est une chose qui pourrait paraître étonnante, mais qui se comprend, le seul terme homologable est celui que Zilberberg ne mentionne pas, à savoir le neutre. Hein, le A neutre chez Brundtland est réellement homologable au grand gamma extensif et neutre chez Yamslev. En fait, encore une fois, s'il n'en parle pas, c'est parce que cette homologation le gêne, puisque ce qu'il va dire après, c'est qu'il y a une pensée du complexe chez Brundtl et une pensée du neutre chez Hjemsted, ce qui va permettre de reproduire une structure élémentaire de la signification, au moins qui a ceci qui est immédiatement lisible pour les sémioticiens d'alors, hein, si tout cela remontait quand même il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est un carré. C'est, oui, hein, ça forme un carré, il y a quatre termes. Mais pour cela, voyez-vous, il a fallu réduire Hjemsted, qui présentait six termes, hein, à quatre. Le philologue, revenons à notre ami le philologue. Aurait-il été jusque-là dans le commentaire? Sans doute pas, il se serait arrêté bien avant. Constater qu'il y a une reformulation est pour lui le terminus ad quem de son investigation. Au-delà, on se trouve dans le royaume de l'esprit, avec l'enchaînement déjà proposé, concept implique système de pensée, implique problématique théorique ou thème philosophique, donnant droit à cette extension du signifiant, des phrases définitionnelles par exemple, impliquant du texte et lui-même impliquant de l'intertexte. On le voit, le royaume de l'esprit n'est pas à considérer nécessairement comme un transcendant, c'est seulement un royaume élargi à l'argumentation discursive et la transmission interdiscursive. C'est dans ces limites élargies que Zitbarberg a lu Hjemsted, comme en témoigne ou pas, vous me direz, cette déclaration extraite de l'entretien qu'il a fait récemment avec Amir Binglari, mon entreprise emprunte à Hjemsted pour la lettre et à Grémas pour l'esprit. Quant aux deux ou trois pages qu'on vient d'examiner en détail, rapidement tout de même, elles semblent occupées en effet, parmi d'autres choses, à mettre des termes hjemsleviens à une problématique grémassienne. Je dis qu'elles semblent parce que cela ne tient pas de la reformulation dont la pensée de Hjemsted a été l'objet. Si une pensée devait être ici reconsidérée comme reformulée, ce serait plutôt celle de Grémas. Mais à un autre niveau, plus profond, c'est-à-dire avec une extension temporelle en amont comme en aval, ce dont il s'agit dans ces pages, comme dans les articles faisant l'objet d'une lecture de Hjemsted, c'est d'insuffler l'esprit de Hjemsted dans les termes des problèmes grémassiens et plus globalement dans les termes des problèmes sémiotiques. Et c'est pour cette ouverture que la reformulation de Hjemsted est nécessaire et que la transmission de sa pensée se manifeste. Actualiser un concept en vue d'un problème, c'est ainsi d'une part offrir une résolution, d'autre part inviter à une ouverture. Les termes hjemsleviens sont le fruit d'un travail permettant de résoudre, de donner pour résolu, un problème. Dans le même temps, le système de pensée dont ces termes témoignent ouvre la structure élémentaire de la signification et la déporte sur de nouveaux aspects. La transmission d'un concept réside entièrement dans ce travail d'ouverture que nos amis les philologues, que j'aime pourtant, c'est pour ça que je parle d'amis, refusent d'entreprendre. Aussi, le propos de la petite note 15, si vous avez de bons yeux, vous pouvez la lire comme moi, serait-elle pour eux proprement inintelligible ? Cette note dit ceci. Il faut reconnaître que les raisons pour lesquelles les termes grand bêta et grand gamma sont désignés comme extensifs ne sont pas très claires. Et en effet, dans la reformulation simplifiée que propose Claude Hilderberg, en effet, ça n'est pas clair du tout. Je ne suis pas en train, encore une fois, de restituer une authenticité en disant « mais oui, voilà comment cela s'éclaire ». Mais sachez que Lorenzo Sigana, dans une thèse qu'il a défendue récemment, a montré qu'il y avait moyen d'expliciter la raison pour laquelle grand bêta et grand gamma sont considérés comme des extensifs, mais là encore une fois, je suis obligé de faire l'impasse là-dessus, et y compris sur
l'exemple que j'aurais voulu aussi. C'est pas. Oui, je me rends bien compte que votre effectivement, notre libido de sémioticien est ici frustré, mais il me semblait que j'avais trop à dire pour aussi faire de la critique théorique. J'avais aussi préparé un exemple pour vous montrer que toutes ces discussions théoriques avaient quand même un impact sur les applications. Et si je ne vous présente pas l'exemple qui concernait, mais que vous lirez lorsque j'aurai... Lorsque je ne sais pas, si vous acceptez que cet article soit enfin, soit transmis.
Tu veux aller jusqu'au bout de...
Oui. Enfin, ça concernait la sexuation des pronoms personnels en anglais contemporain. Or, Claude Silberberg, lui, vous voyez, et c'est quelque chose que je voulais dire à propos de la reformulation aussi, il me semble qu'on doit la distinguer de l'exemplification. Dans le cas présent, on voit bien que Silberberg tient effectivement la reformulation de Niemcev au même degré d'abstraction que les propositions qu'on peut lire dans la catégorie des cas. Et je doute que l'exemplification, plus généralement l'application, participe à la transmission d'un concept. L'application étant l'usage d'un concept, mais elle ne participe pas, du moins pas nécessairement, à sa valorisation axiologique. Dans l'épistémologie néolibéraliste, c'est bien effectivement d'appliquer, mais il me semble que la valorisation là tient juste aux applications elles-mêmes et non pas aux concepts qui ne sont que des outils. Hein. Mais alors pourquoi chercher à exemplifier ? En quoi est-ce que cela aurait pu intéresser le propos qui est le nôtre aujourd'hui ? Bien tout simplement pour montrer que la simplification de la transmission, elle permet de produire d'autres exemples, d'autres applications que celles qu'avait prévues Niemcev. En l'occurrence, ça va permettre de produire les concepts d'intensité et d'extensité pour comprendre des classes ouvertes, c'est-à-dire ce qu'en sémantique aujourd'hui on appelle les classes lexicales, alors que Niemcev, lui, avait en tête uniquement les classes flexionnelles ou grammaticales, si vous préférez. Dernière petite chose à propos de, avant d'en arriver au troisième jalon, dernière petite observation, remarquez que tout de même, et si j'avais... Malgré le temps court qui a été le mien dans cette histoire, parce que je dois faire bref, vous voyez que tout ça, cette reformulation, elle charrie déjà beaucoup de choses. Il faut déjà expliquer beaucoup de choses pour en rendre compte, pour témoigner de ce que c'est qu'une reformulation. D'ordinaire, on n'a pas ces moyens-là. On n'a pas ces moyens-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut déployer tant de catalyses, défaire tant de syncrétismes, combler tant d'ellipses, qu'on ne peut pas faire ce travail de distanciation prudente, rhétorique, que j'ai fait à peu près devant vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a là quelque chose à déplorer, mais cela entoure les transmissions des concepts qui reposent sur ces reformulations d'un savoir implicite partagé et laisse supposer, pour reprendre la formule de Jean-François, la constitution d'un actant collectif. Troisième et dernier jalon de ce parcours, il est constitué par les textes postérieurs à cette lecture de Niemcev, en particulier aux ouvrages suivants, Éléments de grammaire tensive, des formes de vie aux valeurs et la structure tensive. Je laisse de côté tension et signification qui a des spécificités propres. Donc, or, ce qui m'intéresse, c'est de considérer les ouvrages en faisant sur eux des observations qui leur sont communes. Je ressaisis le problème de la transmission relative au concept. D'un point de vue sémiotique, quel est ce problème ? C'est bien sûr celui de leur valeur, mais non plus au sens axiologique, comme il en a été question jusqu'ici, tout simplement dans son sens saussurien. C'est le problème donc de leur valeur d'échange, si vous voulez. Quand un concept est reformulé et actualisé en vue d'un système de pensée différent de son milieu originel, sa valeur sémantique se trouve modifiée, au point que l'on peut légitimement se demander s'il s'agit du même concept. Et si ce n'est pas le même concept, ben alors qu'est-ce donc qui est transmis ? Eu égard à la question posée, le cas qu'on vient d'examiner offre quelques traits remarquables. C'est là-dessus que je voudrais donc terminer. Le premier, bah, il a été mentionné, c'est d'ailleurs le moins exceptionnel, quoique tout de même déjà assez rare, à savoir la précision et l'explicitation de la reformulation exposant le mécanisme de la transmission dans tout son appareil sémiotique. Jeu entre plusieurs plans d'expression, graphique, symbolique, linguistique, homologation entre des systèmes conceptuels distincts, arraisonnement dans une synthèse actualisante. Bon, je n'y reviens pas. Le second trait remarquable consiste dans la reformulation du système conceptuel d'accueil. C'est-à-dire le fait donc que Claude Silberberg va reformuler son propre système de pensée, hein, son système de pensée qu'il appelle modestement l'hypothèse tensive. Reformulation d'autant plus étonnante qu'elle est complète. Il ne s'agit pas pour lui de faire des deuxièmes, troisièmes éditions d'un ouvrage déjà édité, hein. Et il s'agit à chaque fois de réécrire entièrement l'hypothèse tensive, et que cela est réalisé dans le même genre textuel. Il ne s'agit pas non plus, comme Jemslev a pu s'y essayer, de présenter sa théorie d'une part dans les prolégomènes pour un public élargi, et puis de manière beaucoup plus ésotérique dans le résumé. Hein, il s'agit effectivement toujours de faire des essais théoriques. Donc les trois ouvrages que j'ai mentionnés appartiennent au même genre textuel. Au fil des parutions d'ouvrages, ce sont donc deux séries de concepts, chacun établissant son système de valeurs propres qui se voit transformé, les concepts d'emprunt et les concepts tensifs. Aussi, n'est-ce pas seulement le travail nécessaire à une transmission déontologiquement irréprochable que Silberberg exhibe, c'est également la transmission au travail, c'est-à-dire, me semble-t-il, l'ajustement progressif qu'elle engage. C'est peut-être le moment d'aborder la temporalité de la transmission. Certes, comme l'a rappelé mon voisin Jacques Fontani, la transmission, contrairement à l'éducation, défend la coprésence entre la chose transmise et celle qui transmet. C'est ça. Et oui, ça c'est pas une chose. Enfin si, c'est un texte. Le texte qui transmet. Mais si l'on veut bien prendre garde à la manière dont s'opère la transmission, on doit aussi reconnaître qu'elle est marquée aspectuellement par l'itération. Dans le cas de textes, qui sont des chaînes syntagmatiques, et qui s'enchaînent aussi les uns aux autres, on doit admettre que le concept transmis affecte le système conceptuel au moment même de la transmission, c'est-à-dire de sa reformulation. Ce qui laisse aussi la possibilité de reformuler le système conceptuel d'accueil une fois la transmission acquise, digérée en quelque sorte dans la pensée transmettrice. Eh bien, c'est cette possibilité qu'a saisie Claude. Et il a même fait plus que cela, puisque d'un ouvrage à l'autre, il a réitéré l'acte de transmission de concepts jemslevien. Il a autrement dit répété d'un texte à l'autre la déclaration d'emprunt. Ce qui, à mon avis, constitue un troisième trait remarquable dans cette œuvre. J'en parlerai un tout petit peu, mais je veux d'abord vous dire quel est le quatrième et dernier trait que je trouve remarquable en termes de transmission dans l'œuvre de Silberberg. Eh bien, en termes de transmission, ce n'est pas exactement un concept jemslevien que Claude a transmis, ni même un couple de concepts, mais bien trois couples de concepts qui sont contenus dans la reformulation tensive, à savoir les six concepts suivants: intensif, extensif, intense, extense, intentionnel et extensionnel. Sémiotiquement parlant, il me semble qu'il y a là un syncrétisme aussi surprenant qu'admirable. Ce qui est habituel, c'est qu'une reformulation distingue et diffuse. C'est, je crois, une façon commode de légitimer l'utilité de la reformulation et de gagner sur tous les tableaux. D'une part, le transmetteur est valorisé par le fait de la chose transmise. D'autre part, il est également valorisé en vantant le discernement nouveau contenu dans la reformulation. Mais qu'une reformulation comme celle de l'intensité et de l'extensité concentre trois couples de concepts et leur assigne un fondement qui les approfondit plus qu'elle ne les simplifie, voilà qui sort de l'ordinaire. Il est admirable que ce geste soit conforme avec la prévalence que l'hypothèse tensive accorde à l'intensité sur l'extensité. L'énonciation de la tensivité entre ainsi en accord parfait avec son énoncé princeps. Elle est exemplaire. Par ailleurs, ce syncrétisme met l'accent sur l'importance des signifiants pour les concepts qu'ils expriment. On avait commencé par reconnaître que la reformulation consistait en l'appel de nouveaux signifiants pour un ou des signifiés donnés. Mais dans le cas présent, ce signifié n'est pas dissocié des signifiants qui, par le jeu des dérivations préfixales et suffixales, lui font octroyer un certain pluriel et une certaine variété. Le concept de tensivité est l'invariant formel attaché à cette variété, à la fois sur le plan de l'expression comme sur celui du contenu. Là encore, on ne peut que saluer l'appropriation énonciative que Silberberg fait des préceptes sémiotiques. Les sémioticiens, à mon avis, ne diront jamais assez, alors à qui, notamment aux philosophes, à quel point importe pour l'histoire des idées l'héritage terminologique, la question des termes. Et donc, ça n'est pas une manière de diminuer l'héritage de Yemslev que de lui avoir emprunté la lettre. L'élaboration de cet invariant formel ne s'est pas faite toute seule, évidemment. C'est ici que l'examen, le dernier que je vais vous proposer, des variantes de reformulation dans la transmission des concepts yemsleviens d'un ouvrage à l'autre de Claude, se montre éloquent. Dans les éléments, donc en 2006, il est dit ceci: trois couples interfèrent du point de vue du signifiant. Mais en 2011, dans des formes de vie aux valeurs, cela change, la formulation change. L'hypothèse tensive emprunte deux couples de catégories, plus que deux. Et dans le glossaire, il explique que le troisième a été jugé négligeable. Et finalement, dans la structure tensive, il s'agit d'emprunter à Yemslev, je cite, le couple de préfixes 1 et x, couple qui est un des ressorts de sa terminologie. Ainsi, ce que Silberberg reconnaît devoir à Yemslev, c'est qu'il nous en transmet dans et par sa propre pensée, c'est le caractère systématique et sémiotiquement articulé de la pensée yemslevienne. Et de fait, dans l'essai sur les modalités tensives, l'hypothèse tensive opposait les concepts de tension et de laxité. Les concepts d'extensité et d'intensité qui s'y sont substitués lui ont permis d'expliciter, sinon de légitimer, la recherche de cohérence qui s'y trouve à l'œuvre. Telle est la transmission au travail dans l'œuvre de Claude. Elle est, je dirais, d'un mot scrupuleuse. Non au nom d'une valeur de fidélité, inutilisable et de toute manière inatteignable, et partant virtualisante, mais en raison de la tension, bah oui, c'est bien le mot, qu'elle apporte. Une force, un tempo, de l'élan, de l'événement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que la transmission est bien au cœur de l'écriture de Claude, mais peut-être n'en avez-vous jamais douté. Je vous remercie pour votre patience.
Jacques Fontanille.
La première porte sur la question de la variation du signifiant ou du signifié dans la transmission. Alors, tu as pris le parti de dire que le signifié est ce qui est transmis et que les signifiants changent. Premièrement, parce que je pense tu as pris c'est un parti pris qui est celui de ton exposé, la transmission des idées. Donc, c'est assez naturel de penser que la transmission des idées, les signifiés sont relativement stables et puis que les signifiants changent. Mais il n'y a pas que de la transmission d'idées, donc il ne faut pas qu'on sorte ton exposé en pensant que la transmission repose uniquement sur la variation des signifiants et sur la stabilité des signifiés. On peut avoir l'inverse. Et je pense d'ailleurs, je pense que sous un certain point de vue et dans le détail, on a un peu l'inverse aussi chez Silberberg, parce que ce qui entre sous intensité et extensité au fur et à mesure de ses travaux est de plus en plus large, de plus en plus divers, de plus en plus imprévisible à partir de Jemschleff. Donc il y a aussi une reconsidération, et pas simplement une reformulation dans l'expression, une reconsidération du signifié lui-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point porte sur le triangle Brondal, Jemschleff, Grémas. C'est pas ce que tu as fait, mais on pourrait tirer en étant de mauvaise foi de ton argumentation que Silberberg a voulu valoriser Jemschleff et n'a surtout pas voulu valoriser Grémas, puisqu'il a transmis l'un et pas transmis l'autre, tout en voulant agir indirectement dans un billard à trois bandes ou à quatre, je ne sais pas, sur les problématiques grémassiennes, comme tu l'as pas bien développé, mais en tout cas tu l'as suggéré. En effet, la problématique des différents types de position et de termes de la structure élémentaire, et je crois que j'en passe que de moi quelqu'un qui doit se souvenir de cette époque, était très brondalienne, il y avait une parenthèse très proche entre Brondal et Grémas, de ce point de vue-là. Et donc, transmettre Jemschleff et Brondal à travers la modélisation de Jemschleff qui s'impose à Brondal, qui récupère et qui Jemschleffise tout cela, c'est d'une certaine manière éviter d'affronter directement la proposition de Grémas pour lui faire faire le même travail, et ça en dit beaucoup. Alors, peut-être sur l'atmosphère de l'époque, mais ça en dit aussi, à mon avis, sur ce qu'est la transmission. Est-ce que Silberberg se comporte à l'égard de Grémas, et je pense qu'il s'est comporté toute sa vie à l'égard de Grémas, comme un contemporain, même si il y avait un décalage d'âge, d'expérience, de statut, etc., il s'est toujours comporté comme un contemporain. Et donc, avec un contemporain, on ne fait pas de la transmission. Enfin, grosso modo, contemporain. Avec Jemschleff, on fait de la transmission. Donc, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. C'en est une, mais il y en a peut-être deux, trois, quatre, etc. En tout cas, c'est tout à fait étonnant, cette affaire-là.
Oui, donc, tout à fait d'accord avec toi qu'il y a d'autres transmissions que celles des signifiés, mais comme tu dis, c'était le sujet du jour, mais il y a aussi des transmissions de termes. Et dans ce cas-là, en effet, pourquoi est-ce qu'on parle de transmission dans le cas de termes ? Pour la même raison, c'est-à-dire qu'un terme est tout à coup, un mot est tout à coup valorisé. Il est clair, c'est une étude que j'ai faite avec François Provenzano et Stéphane Polis sur la manière dont on pouvait regarder la transmission du terme énonciation, par exemple, chez les linguistes. Le terme énonciation n'est pas en soi valorisé par Benveniste, mais il le sera immédiatement plus tard par Roland Barthes et puis par d'autres linguistes, lorsque, par exemple, Roland Barthes considère que une certaine conception de la rhétorique classique mériterait d'être en fait désigné par le terme d'énonciation. On voit bien que ça n'apporte pas un nouveau concept, c'est apporter un nouveau terme, et donc là, effectivement, il y a transmission de ce terme. Donc, tout à fait d'accord, et c'est un petit peu ça que j'avais aussi annoncé, mais donc ça, j'ai pas eu le temps, justement, de marquer cet autre versant, parce que les idées, c'était un fameux morceau, mais... C'est ce qui manque, il me semble, à beaucoup de commentaires philosophiques, c'est qu'on ne fait pas assez le départ entre, enfin qu'on ne distingue pas assez nettement la question de la transmission des termes et la transmission des concepts qui, même si bien sûr, même s'ils sont associés dans les signes, sont deux aspects qui peuvent être qui, dans la transmission, peuvent être trouver des parcours différents. Pour ce qui est de la continuité entre entre Yemslev, Grémas et Zilberberg, tu as proposé une lecture qui fait de Grémas et Zilberberg des contemporains. Moi, ma lecture, tu la connais, enfin, je l'ai donnée, c'est de dire que la transmission, elle passe une génération. Hein, ce qu'on transmet, c'est effectivement parce que pour des raisons de coprésence, on est coprésent entre deux générations proches, mais par contre, donc on peut toujours alléguer la génération qui précède celle à laquelle on s'oppose. Alors, s'opposer est trop dur. On se pose en tout cas. On se positionne. D'accord. Ah oui, donc c'est ça, oui. C'est contemporain, mais pas du même âge.
Oui, c'est pas.
Ah bon,
Nicolas Cuenas a demandé la parole. Manifestez-vous si vous souhaitez.
Ouais, je sais pas si j'ai bien compris, mais il me semblait que tu venais de donner un autre exemple de création du texte, parce que je retrouvais ce que tu ta façon de décrire l'exemple de Claudine Normand, tu sais, où il y a création du texte dans ton ouvrage l'épistémologie sémiotique. Donc je ne sais pas si c'est le cas, il me semble l'avoir entendu comme ça. Donc il y avait un nouvel exemple de création du texte en acte. Donc là c'est dans un genre particulier, puisque c'est celui de la transmission. Et c'est d'ailleurs parce que c'est du texte qu'il y aurait transmission, c'est ce que tu dis, il me semble. Ouais. Et alors, ma question, c'est juste une demande d'éclaircissement, c'est sur la notion de geste discursif. Parce que justement, j'ai l'impression que le concept de geste discursif, ça a l'air d'être ce que l'établissement du texte doit au genre. Sachant que, comme tu l'as décrit, parce que tu as dit que tu as fait mention de la reformulation, donc, et ça a un aspect paradigmatique en plus. Enfin, c'est autour de cette notion de geste discursif, c'est pour avoir quelques éclaircissements.
C'est Mir Badi.
De cette question, parce qu'en effet, je travaille pour le moment sur la notion de geste discursif, donc je peux effectivement te donner un petit complément là-dessus. Le geste discursif, pour moi, c'est une figure de l'énonciation. Hein, donc, c'est comme ça que je la réfléchis, je la conçois. Donc, aux figures de l'énoncé qui sont traitées par la rhétorique classique et moderne, j'oppose, enfin, en termes de complément, des gestes discursifs. Alors, ces gestes discursifs doivent-ils au genre ils ne se situent. Oui, sans doute, bien sûr, que les gestes discursifs doivent être interprétés dans le cadre des genres textuels, c'est certain. Mais par ailleurs, ils ne s'y logent pas. On peut les étudier indépendamment de leur de la généricité. La reformulation, par exemple, il me semble qu'on peut aussi la trouver dans des textes romanesques. Il y a des œuvres romanesques qui ont été reformulées. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de. Encore une fois, même si elle instruit ce que c'est dans chaque cas spécifiquement que tel geste ou tel autre geste, le geste discursif ne se loge pas dans un genre. En fait, la différence entre un geste énonciatif et une figure énoncée, c'est que le geste énonciatif, il laisse des traces dans l'énoncé, mais il n'est pas formalisable strictement à partir de ces traces. Il est toujours au-delà de ces traces, donc en fait, en termes d'Imsevien, on pourrait dire justement que c'est un terme extens et pas intense, c'est-à-dire qu'il il traverse tout un énoncé. Hein? Donc on ne peut pas localiser la reformulation, il faut comprendre le geste.
Très bien. Jean-François Bordron a demandé la parole.
Bien, merci. Juste la première, c'est quand même
tu as choisi pour illustrer la transmission, tu as choisi un format qui est celui du mot, finalement. Et malgré tout, on transmet pas seulement les mots, ni du point de vue du signifiant, ni du point de vue du signifié. D'abord, bon, à l'évidence, il y a la transmission d'un problème, quand même, qui est un petit peu autre chose. Et puis il y a la transmission de scénarios, il y a tout un tas de choses. Et puis dans l'histoire, par exemple, il y a des longues transmissions de métaphores, par exemple, qui structurent les textes, bon, des styles, des genres, etc. Il y a énormément de choses. Et puis, surtout, ça ne va pas contre ce que tu as dit, mais c'est juste une question. Il y a des choses qui sont transmises curieusement, sans que, au fond, il y ait volonté de transmission. Par exemple, dans les textes de Sylvain Bell, je l'ai souvent discuté de ça avec lui. À travers Yamslev, il y a quand même la réactivation de tout un tas de choses. C'est pas Yamslev qui a inventé ces termes d'intensif et d'extensif. Et Yamslev les a pris lui-même à autre chose, qui sont pas la même, pas réactivés directement, mais qui invitent à aller voir quand même d'où ça vient, tout ça, etc. Donc transmis aussi d'une certaine façon, surtout quand. Par exemple, quand j'ai discuté de ces termes, c'est évident que c'est des vieux termes philosophiques qui ont été repris, etc., et qui se maintiennent malgré ça dans leur signification fondamentale. Alors, tout ça pour dire que c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. Et puis, il y a des choses très amusantes. Par exemple, je suis tombé l'autre jour sur un texte de Wittgenstein où il transmet tranquillement sur la métaphore du fleuve, par exemple, qui nous vient, comme chacun sait, d'Héraclite. C'est amusant, c'est donc une métaphore. Il la transmet, mais il la transmet pour la faire fonctionner autrement. Il dit exactement le contraire. Il dit, ça prouve qu'il y a de la stabilité. Ah bon? Alors, voilà. Et c'est vrai, d'ailleurs, d'une certaine façon, on peut prendre les choses comme ça. S'il y a un fleuve, c'est qu'il y a des bords. Bon. Mais il cite pas. Il n'y a pas besoin de citer. Donc, il y a une transmission, là aussi, qui signifie tout un tas de choses, l'appartenance à un domaine, en fait. C'est tout, mais enfin, bon, c'est juste pour compliquer un peu les choses.
Pas. Non.
Oui, d'accord.
D'accord, hein. Bah oui, bien sûr. Mais bon, sauf que c'est ça. J'avais quand même essayé de soutenir que si on ne sait pas qu'il y a transmission, si personne ne sait qu'il y a transmission, il n'y a pas de transmission. Et, tu vois. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, c'est la question. On peut dire effectivement, c'est toujours les mots. Les mots sont toujours les mots des autres.
Je ne sais pas si ça marcherait.
Les écologues parlent de transmission entre les générations d'animaux. Et ils en observent les manifestations, etc., mais il n'y a pas de conscience réflexive, apparemment.
Oui. Je ne parlais que de la transmission
des idées.
Des idées.
Voilà.
Hein? En effet,
il y a la généralité.
Non, ça c'est vrai. Sûrement.
Dans la lignée de ce que dit Jean-François, il y a aussi une transmission totalement occultée dans l'utilisation de l'intensivité, intensif-extensif chez Claude. C'est Guillaume, Gustave Guillaume, dont il était un grand lecteur quand il était étudiant, dont Rastier témoigne régulièrement. Enfin, voilà, et là, il n'y a aucune référence. Aucune référence. J'ai même participé à un colloque où Zimmerberg était en train de parler, Rastier était présent, moi aussi, tenter de faire le rapprochement. Rastier insiste, Claude ne connaît pas.
Donc pas de transmission.
S'il y a une existence des concepts de tension en sémiotique aujourd'hui, c'est une manière de transmission de l'héritage guillaumien aussi.
Mais ça, c'est toi qui le dis.
Ah oui, d'accord, je suis d'accord.
Non, non, mais je veux dire, non, mais j'en suis tout de suite, je suis tout de suite d'accord. Enfin, je suis tout de suite. J'entends tout de suite ce que tu le dis, mais c'est bien toi qui le dis, pas Claude.
Oui, je constate qu'il y a une transmission, donc il y a transmission.
Voilà, c'est
oui,
ça.
D'accord. Et c'est vrai que, enfin, c'est dommage, il n'est pas là, mais c'est, pour d'autres raisons, c'est dommage. Mais je pense que c'est une discussion qu'il aurait été intéressant d'avoir avec, lieu avec lui, mais parce que jamais plus. J'ai écrit le livre avec lui sur tension et signification, et Guillaume n'est jamais venu sur voilà, c'est pas possible.
C'est curieux parce que moi, c'est avec lui que j'ai écrit. C'était au siècle dernier déjà.
Mais il est vrai que la conception de la tension chez Guillaume, dans sa structure syntaxique et sémantique, n'est pas de même type que celle qui est chez Schleff. C'est différent. Hein,
Denis Bertrand.
Oui, merci bien. Tu as situé la reformulation comme dans le sens de l'augmentation de valeur, c'est-à-dire de la meilleure adéquation du concept à ce qu'il vise à travers la question de la transmission. Mais évidemment, la notion de reformulation est dans ce cas-là, comme opération énonciative de reprise et en quelque sorte très spécialisée. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, sous d'autres points de vue, que la reformulation peut être à l'inverse, marqué par une diminution de valeur, et que ce qui est en jeu finalement dans la reformulation, c'est une sorte de mise en question de la valeur précisément, qui est au cœur de la chose, et que le postulat de l'augmentation doit peut-il être séparé de celui de la diminution potentielle. Y compris, par exemple, je pense à des reformulations de type sélection de Reader's Digest, par exemple, ou des...
Oui, si, je suis bien d'accord avec toi qu'il y a... On peut effectivement déconsidérer un problème par une reformulation en disant « Oui, ben, tout ça, ça n'est que... Hein, » et puis reformuler... Ça n'est que le vieux problème d'eux, donc ça dévalorise complètement, ou ça diminue la valeur.
Ou l'altération,
oui. Oui. Ce qui, donc, je prends note. J'ai dit que la transmission des idées passait par la reformulation. Je ne suis pas sûr d'avoir dit, ça mérite examen, que toute reformulation conduit à une transmission. Ah oui. Tu vois. Or, la valeur, je l'ai attachée à la transmission, pas à la reformulation. Mm-hmm. Mais en effet, ça, c'est un argument qui manque. C'est un argument qui manque. Donc, je te remercie.
Pierre-Luigi Basso.
Je te demande un peu une réponse franche là-dessus. Est-ce que tu penses vraiment que la transmission est une catégorie générale par rapport à l'exemplification, l'application, reformulation, généalogie, mention. Donc tu as vraiment montré qu'il y a plusieurs pratiques finalement, et qu'il y a une problématisation de l'existence culturelle. Hein. Ce n'est pas évident que l'existence culturelle est continue, et qu'on doit toujours la reproduire, hein, à travers des pratiques différenciées. Alors, est-ce que selon toi, la transmission est une catégorie générale, ou quelle est la hiérarchie finalement pour toi?
C'est mieux à dire.
Malheureusement, je n'ai pas de réponse, Pierre-Luigi. Je n'ai pas. En effet, il faut réfléchir. Si je n'ai pas de réponse, c'est que la question ne m'intéresse pas trop. Hein. Ce n'est pas comme ça que je réfléchis à la transmission. Ce n'est pas donc, pour moi, la transmission des idées, effectivement, là, il y a quelque chose qui est tangible. Enfin, tangible, ça veut dire quelque chose pour moi, hein, indépendamment de la catégorie générale de la transmission, transmission génétique, transmission, tu vois. Transmission par les ondes et les choses comme ça. Donc, voilà. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Non, non, non. Et en revanche, et donc la transmission n'est pas un geste discursif. Hein. Elle, malgré tout, le geste discursif, c'est la reformulation. Je ne peux pas. Elle ne laisse pas de trace. Ce n'est pas une manière. Ce n'est pas quelque chose qui te fait écrire ou qui te fait parler, la transmission. C'est quelque chose que tu repères en termes d'éthos et de pathos. Hein, donc mais c'est plus que les effets de discours. C'est un éthos et un pathos qui innervent la structure fondamentale de ton énoncé. Tu vois, c'est pas juste.
C'est une condition de textualisation.
Voilà. Très bien dit.
Je vous propose de nous arrêter pour la pause traditionnelle.